Continue ce matin notre parcours dans le livre des psaumes. On a déjà fait escale sur le psaume 1 et le psaume 2. Et je crois que si le livre des psaumes est un des livres les plus lus de l'Ancien Testament, c'est certainement lié au fait qu'il nous permet de côtoyer et de nous identifier à des personnes comme nous, qui expérimentent les réalités de la vie sur terre et qui expriment au travers de ces psaumes ce qu'elles ressentent au plus profond d'elles-mêmes. Et en faisant ce parcours dans ce psautier, on y découvre la joie, la détresse, le doute, l'incertitude, la confiance, la souffrance, l'émerveillement, la crainte et bien d'autres choses encore. Ce matin, j'ai choisi un psaume qui nous parle d'une réalité qui est le lot de tout être humain et qui nous affectera tous, tôt ou tard, que l'on soit croyant ou non. Le fait que nous passions notre vie à vouloir l'éviter, à vouloir y échapper, à vouloir l'abréger, révèle quelque part que cette chose-là demeure une anormalité de la vie, un bug dans le système. Cette saleté sur le pare-brise qu'on aimerait balayer d'un coup d'essuie-glace. Nous avons cette impression au fond de nous que nous n'avons pas été créés et programmés pour vivre cela. Elle est tellement insupportable que nous sommes parfois prêts à aller à l'encontre de la volonté de Dieu pour nous en débarrasser. Vous l'avez compris et c'est affiché, il s'agit de la souffrance. En tant que chrétien, que croyant, ce n'est pas toujours simple d'en parler, de parler de notre souffrance. Il y a la crainte d'entendre des maladresses ou des raccourcis types comme « Fais confiance à Dieu et ça ira ». Parfois, il y a aussi la culpabilité liée à cette idée reçue que puisque j'ai la joie d'appartenir à Christ, il ne devrait pas y avoir tellement de place pour la tristesse ou le découragement, ou même des choses plus lourdes comme la dépression. Nous nous sentons tellement démunis face à la souffrance. Ceux qui nous entourent sont démunis. Je vous invite à lire le psaume 13. Ce psaume est intéressant parce qu'il a été écrit par David. Cet homme, selon le cœur de Dieu, nous dit la Bible. Cet homme qui avait de grandes responsabilités en tant que roi du peuple de Dieu, en tant que leader. Oui, cet homme-là traverse une période bien compliquée et il nous ouvre, au travers de ce psaume, une fenêtre sur son âme. Je vous invite à en faire la lecture. Psaume 13, au chef de cœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ton visage? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu, et mes adversaires se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, J'ai confiance en ta bonté. J'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. David est clairement éprouvé dans sa vie. Et j'ai l'impression qu'au travers de ce psaume, il esquisse un chemin qu'il suit au cœur de la souffrance. Un chemin en trois étapes. Et le premier est celui-ci. Il y a un temps pour la lamentation. Quand on connaît un petit peu la vie et l'histoire de David, de ce roi, on se rend compte combien il n'a pas été épargné par les épreuves. Personne ne connaît les circonstances qui ont poussé David à écrire ce psaume. Est-ce que c'était alors que Saül, celui qui était roi avant que David le devienne, est-ce que c'était au moment où Saül poursuivait David et voulait le tuer? Ou alors, est-ce que c'était pendant que le propre fils de David, Absalom, le poursuivait aussi pour le tuer? Il est question de son ennemi à deux reprises, au verset 3 et verset 5, de ses adversaires aussi. Peut-être que c'était cela. J'aime à penser en tout cas que ce silence sur la cause permet à chacun de se projeter sur ses propres souffrances, quelles qu'en soient les raisons. En tout cas, David souffre, et il le fait savoir à Dieu. Il le lui exprime, il se lamente. Ces circonstances qu'il vit l'entraînent dans un profond désespoir. Un désespoir tel qu'à quatre reprises en deux versets seulement, il demande à Dieu « Jusqu'à quand ?» Ces « jusqu'à quand ?» sont clairement l'expression d'une souffrance qui dure, qui n'en finit pas. C'est comme entrer dans un tunnel dont on ne voit pas le bout. Et là, au cœur de cette traversée sombre et interminable, j'aimerais souligner deux choses que David mentionne au verset 2 et 3 qui peuvent accentuer considérablement notre détresse. La première, et peut-être la plus douloureuse, concerne Dieu. C'est ce terrible sentiment que Dieu semble totalement indifférent à notre souffrance. Il ne nous répond pas. Il reste silencieux. Il ne dit rien. Il ne fait rien. Est-ce qu'il nous a oubliés? Comme le dit David au verset 2. Seigneur, ce n'est pas le moment de te cacher, pas maintenant. Où es-tu, Seigneur, alors que je souffre? En réalité, nous sommes devant ce contraste énorme, ce contraste frappant entre qui nous sommes et qui Dieu est. Parce que nous, les êtres humains, nous sommes des êtres créés. Nous vivons dans le temps qui est une succession de moments. Nous avons un passé, nous avons un présent et nous avons un futur. Le temps avance petit à petit et les bonnes choses que nous vivons nous donnent la sensation que le temps passe vite. Mais quand on souffre, le temps semble terriblement ralentir. Et nous nous adressons donc à Dieu, qui lui a une toute autre perspective du temps. Dieu n'est pas un être créé. Il est en dehors du temps. Il est intemporel. Il existe de toute éternité. Il n'a ni commencement ni fin, affirme sa parole. Autrement dit, le temps n'a pas d'effet sur Dieu. 2 Pierre, chapitre 3 et le verset 8 nous dit « Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. » Voilà la perspective de Dieu. Dieu ne fait pas de différence entre un jour et 1000 ans. La deuxième chose qui nous accable, la première, donc, c'était à propos de ce silence de Dieu, ce sentiment d'absence de Dieu. Cette deuxième chose qui nous accable est à propos de nous-mêmes. David dit « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour des chagrins dans mon cœur ?» Verset 3. Une autre traduction, plus juste me semble-t-il, dit « Jusqu'à quand formerai-je des projets dans mon âme ?» La pensée qui est exprimée ici est celle de la personne qui court dans tous les sens, qui passe en revue différentes solutions pour trouver coûte que coûte une porte de sortie à sa détresse. Et cette quête incessante affecte chaque partie de ce que nous sommes, nos émotions, nos pensées et notre volonté. Ce « jusqu'à quand » est le cri de lassitude et d'épuisement associé à cette course effrénée, sans solution apparente. Ce que nous pouvons retenir ici, c'est que dans notre détresse, il y a de la place pour épancher notre cœur devant Dieu. C'est la première étape du chemin. Nous pouvons être honnêtes avec Dieu par rapport à tout ce que nous vivons. Nous pouvons être transparents et authentiques. De toute façon, il nous connaît parfaitement. Dieu est au courant de nos souffrances. Et nous ne devons pas craindre de l'ennuyer en lui exposant ces choses-là. Bien au contraire. Je crois qu'il y a dans la lamentation une forme d'humilité. Quand j'exprime à Dieu ma douleur, ma souffrance, les questions qu'elle suscite, mon épuisement, ma lassitude, je suis en train de lui faire part, dans un certain sens, de mon extrême faiblesse, de mes limites. J'affirme en quelque sorte à Dieu, je n'ai pas en moi-même les ressources nécessaires pour continuer d'avancer. Et c'est la porte ouverte vers la deuxième étape du chemin. Faire appel au secours de Dieu. David se sent complètement faible et démuni. Écrasé par le poids de ce qu'il est en train de vivre, il sait que de lui-même, il n'y arrivera pas. Alors il prie. Il crie à Dieu. Il lui demande d'intervenir parce qu'il se sent dépérir. Il dit « Donne la lumière à mes yeux », verset 4. C'est-à-dire « Viens éclairer mes yeux ». En fait, c'est la même expression qui est utilisée dans un autre endroit de l'Ancien Testament, dans 1 Samuel, au chapitre 14. Saül, le roi Saül, est en train de mener une guerre acharnée contre les Philistins. son peuple ennemi. Et de manière totalement insensée, il fait jurer à son peuple que celui qui mangera avant la fin des combats sera maudit. Et alors que son armée est complètement épuisée, elle entre dans une forêt où il y a du miel au sol. Bien sûr, aucun des soldats ne touche à ce miel, à l'exception de Jonathan, le propre fils de Saül, qui n'était pas au courant de ce serment qui avait été prêté par le reste de l'armée du roi Saül. Et il est dit, « Il avança le bout de son bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche. Et ses yeux furent éclaircis. » Voilà ce que demande David à Dieu. Donne-moi les forces nécessaires pour continuer. Dans la Bible, version du Semeur, viens réparer mes forces. Je ne sais pas pour vous, mais je suis touché par la simplicité de cette prière. Combien elle m'encourage. Alors que l'épuisement est là, que ça ne va pas, que je ne sais bien souvent pas quoi demander, ni comment le demander à Dieu. Là, tout ce que David demande, c'est « Seigneur, j'ai juste besoin que tu renouvelles mes forces. » David se tourne en toute simplicité vers le seul qui puisse le ressourcer, le fortifier au plein cœur de sa souffrance. Jacques, chapitre 5, verset 13, nous dit « Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance ? Qu'il prie. » Cette communion que nous avons avec Dieu et ce libre accès dont nous bénéficions à chaque instant et en toutes circonstances est une grâce dans notre relation avec le Seigneur. Dieu aime la prière parce qu'elle est une expression encore d'humilité. Quand je sollicite le secours de Dieu, je lui exprime à la fois mon incapacité à compter sur moi-même et donc mon entière dépendance envers lui qui seul peut agir. La prière a aussi ce côté bénéfique en ce qu'elle nous incite à lever les yeux, à les décoller de nos circonstances pour regarder vers Dieu et nous attendre patiemment à lui. Elle favorise le cheminement vers cette troisième étape, un temps pour la confiance. Je ne sais pas comment vous avez vécu la fin de ce psaume. Personne ne s'explique un tel contraste, un tel revirement entre la détresse du début du psaume et l'espoir qui apparaît à la fin. Combien de temps s'est écoulé ? Est-ce qu'il y a eu 6 mois, une année, une semaine, quelques heures seulement ? Personnellement, ce n'est que mon opinion à moi, je ne pense pas qu'il se soit écoulé un grand laps de temps entre l'écriture du début de la fin de ce psaume, du début de ce psaume et la fin. Je ne pense pas que David l'ait écrit plus tard, après une intervention de Dieu. Non, je crois que, après avoir sollicité dans la prière le secours de Dieu, David fait consciemment le choix de se tourner vers les raisons très légitimes, de faire confiance à Dieu. En fait, David fait un choix délibéré de regarder au-delà des circonstances du moment présent. Il fait le choix de changer de perspective et de regarder à qui Dieu est de toute éternité. Il veut intentionnellement, comme s'il se l'imposait à lui-même, considérer la personne de Dieu, ce qui le caractérise, sa nature, ce qui ne change pas chez Dieu. Ce ne sont pas nos circonstances qui définissent qui est Dieu. Dieu est qui il est et il le restera, quel que soit ce que je peux vivre et indépendamment de ce que je peux ressentir ou non au plus profond de mon cœur. Et c'est ce qui permet à David, malgré la longueur de l'épreuve qu'il traverse, de manifester sa confiance, sa joie, et même, à la fin de ce psaume, sa louange envers Dieu. Au plein cœur de la tempête la plus violente de nos vies, nous pouvons continuer de faire confiance à la bonté de Dieu et à son amour, parce que Dieu est bon, parce que Dieu est amour. C'est ce qui le caractérise. Il est possible de se réjouir à cause de son salut, parce que Dieu est sauveur. Et bien sûr, nous pouvons louer Dieu, parce que c'est la réponse d'un cœur qui s'émerveille justement de qui Dieu est et de ce qu'il fait. Et on l'a encore chanté ce matin. Nous venons de suivre le chemin emprunté par David alors qu'il est éprouvé. Ma prière, c'est que nous soyons encouragés ce matin à suivre ce chemin, alors que nous traversons peut-être une période de détresse profonde qui semble ne jamais s'arrêter. Sur ce chemin de souffrance, il y a un temps pour déverser notre douleur devant Dieu. Un temps pour lui exprimer nos incompréhensions, notre lassitude, parfois notre épuisement. Il y a un temps aussi pour faire appel au secours de Dieu, pour lui demander son intervention. Il y a également un temps pour choisir de regarder au-delà de ces circonstances et de continuer à nous accrocher et faire confiance à Dieu qui ne change pas. Rappelons-nous que nous ne souffrirons pas indéfiniment. Dieu peut apporter ponctuellement un secours. Il l'a fait et il le fera certainement encore. Mais l'absence momentanée de secours sur cette terre ne signifie pas que Dieu n'est pas bon, que Dieu n'est pas digne de confiance. Le salut que Jésus nous a offert est un salut éternel et nous aide à persévérer au cœur de la souffrance parce que notre espérance d'une délivrance totale de cette souffrance se porte au-delà de cette vie sur terre. Enfin, j'aimerais terminer par cela, en guise de conclusion. Alors que nous vivons après la croix, soyons aussi encouragés en portant notre regard sur le propre chemin de souffrance de Jésus-Christ, le roi par excellence vers lequel pointe David. Jésus a très certainement prié, il a très certainement chanté ce psaume. Jésus a vécu cette séparation avec son Père. Il a expérimenté et ressenti l'angoisse terrible de son silence alors qu'il souffrait intensément pour nous à la croix. Malgré tout, il a continué à dépendre de son Père, à lui parler et à s'attendre à lui jusqu'au bout, alors qu'il voyait ses forces diminuer, jusqu'au moment de rendre son dernier souffle. Jésus a toujours gardé une pleine confiance dans la bonté et l'amour inconditionnel de son Père, même dans son heure la plus sombre sur cette croix. Jusqu'à la fin, et malgré ses atroces souffrances, Christ avait cette joie immense à cause du salut qu'il était en train de nous offrir. Et il s'accrochait par la foi à la promesse de résurrection. Oui, soyons-en assurés. S'il y en a un qui n'est jamais démuni devant nos souffrances, c'est bien Jésus-Christ lui-même. Il la connaît et il est là, à nos côtés. Je termine par cette citation qui affirme « Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est pas même venu pour l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. » Je vais prier pour terminer. Seigneur, comme il est bon de savoir que tu connais chacune de nos vies, parce que tu t'es fait homme en la personne de Jésus-Christ, parfaitement homme, parfaitement Dieu. Tu as marché sur cette terre et tu as exprimé la souffrance aussi dans tout ce que tu as vécu sur ton temps sur terre. Et tu es celui qui est le mieux à même d'avoir compassion dans cette souffrance dans laquelle nous pouvons expérimenter nous aussi sur le chemin de nos vies sur cette terre. Les raisons sont tellement nombreuses et tu nous connais tous les uns et les autres ici présents. Tu connais parfaitement chacune de nos vies. Et tu sais aujourd'hui dans chacune de nos vies où nous en sommes et quelles sont ces choses, ces raisons, ces causes qui nous amènent à souffrir, qui amènent peut-être de la détresse, de la douleur dans nos vies. Seigneur, comme il est bon de se rappeler que ces choses normales, qu'on n'est pas des extraterrestres et que l'on soit croyant ou pas ce matin, c'est une réalité qui nous touche. Et combien on a ces raisons dont nous parle ce texte, d'avoir du réconfort parce qu'on est dans cette relation avec toi, parce qu'on peut te parler, parce qu'on peut t'exprimer ce que l'on vit, parce qu'on peut solliciter ton secours. Et Seigneur, je te prie que voilà, ce passage soit un encouragement pour chacun ce matin, quel que soit l'endroit où on se trouve dans ce chemin de difficulté, dans ce chemin de souffrance, et qu'on puisse vraiment serrer ces vérités au fond de notre cœur et serrer cette vérité que cette souffrance sur cette terre est passagère, mais qu'on est en route vers un chemin de gloire, vers un moment où pour celles et ceux qui te font confiance, qui croient en toi, Seigneur, sera glorieux et majestueux. Alors, donne-nous de garder les yeux fixés sur toi qui es présent, qui marche à nos côtés à chaque instant de ces moments sur cette terre. Mais garde-nous de garder nos yeux fixés sur cette espérance. Et donne-nous de persévérer, Seigneur. Donne-nous les forces dont nous avons besoin pour faire le pas suivant, Seigneur, et continuer d'avancer au plus profond de l'obscurité qui nous envahit en ce moment, Seigneur. Dans le nom précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Amen.